Dime qué son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Philippe Palares. Aujourd'hui, je reçois Jacques Mazurel pour parler de la pensée de Teilhard de Chardin. Jacques Mazurel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fait une carrière dans l'industrie en France, au Japon, en Suisse. Mais si je vous invite aujourd'hui, c'est parce que vous êtes un fin connaisseur de Pierre Teilhard de Chardin. Vous êtes vice-président de l'association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin et auteur de plusieurs ouvrages, dont Teilhard de Chardin, visionnaire du monde nouveau, avec André Danzin aux éditions du Rocher en 2005. Alors, ça fait longtemps que j'avais envie de faire une émission sur Teilhard de Chardin, qui pour moi est quelqu'un de fondamental, de très visionnaire, qui a dit beaucoup de choses qui me se sont révélées, à mon avis, extrêmement pertinentes, et qui est un petit peu oublié aujourd'hui. Donc, je suis vraiment content de pouvoir vous inviter pour en parler. Mais alors, avant qu'on rentre dans les aspects de la pensée de Teilhard de Chardin, et notamment les aspects les plus actuels de sa pensée, qui peuvent le plus nous éclairer sur les défis de notre époque, je voudrais que vous nous rappeliez d'abord, dans un premier temps, qui il est pour nos autres auditeurs qui ne le connaissent pas. Donc rappelez-nous un petit peu, voilà, quelle est sa formation. C'est à la fois donc un jésuite, un scientifique. Expliquez-nous un petit peu cette double formation qu'il a eue et quels ont été les moments importants, les temps forts de sa vie.
Je dirais que le premier temps fort, c'est sa naissance. Il est né en Auvergne, tout près de Clermont-Ferrand, le 1er mai 1881. C'est dans un petit château, ou plutôt une gentilhommière, d'où la vue plonge sur Clermont-Ferrand, et qu'il a grandi. Son père, Emmanuel Teilhard, était le père de toute une ribambelle d'enfants. C'est intéressant de le signaler, son fils tenait un peu de lui. C'est un géant, 1,95 m de haut, un érudit, passionné de la nature, qui se faisait un devoir, à travers de longues promenades familiales, de former sa nombreuse descendance. Alors, ce qui est amusant, c'est que la mère de Pierre Teilhard de Chardin, née Berthe Dompierre d'Ornois, est en fait l'arrière-petite-fille de Marie Arouet, qui fut la sœur de Voltaire. Quand on sait que cette sainte femme se rendait tous les jours à pied à la messe et qu'elle faisait quelques kilomètres pour se rendre à l'église, on peut se demander si notre bon vieux Voltaire ne se retourne pas dans sa tombe.
Quelle a été sa formation ensuite?
Il a eu une formation tout à fait classique pour l'époque. Il a été formé chez les jésuites et de là a fait un séminaire jésuite. Il a, au fond, tout l'essentiel de sa formation s'est passé chez les jésuites.
Et il a également une formation scientifique, puisqu'il est connu
Alors,
comme
sa
un homme de
formation est
science.
scientifique, il l'a acquise en fait chez les jésuites pour une bonne part. Son premier poste a été d'être nommé, parce qu'il était très intéressé justement par toutes ces questions scientifiques, son premier poste a été d'être nommé, c'est intéressant, c'est son premier séjour en Orient, au Caire, comme professeur de chimie, physique-chimie. De là, il est rentré en France, il a suivi des cours, j'espère ne pas me tromper dans la chronologie, il a suivi des cours au Collège de France et a terminé ensuite, et là c'est plutôt sa formation théologique et philosophique, à Hastings, puisque vous savez qu'à l'époque, les jésuites étaient interdits en France. Donc il n'y avait plus de jésuites et il est parti terminer son noviciat à Hastings, en Angleterre, donc juste en face de chez nous.
Et alors ensuite, il a été nommé. Qu'est-ce qu'il a fait en tant que jésuite? Où est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce
Alors,
qu'il a
en tant que.
enseigné?
Oui, alors, très, très vite, il a été envoyé en mission, compte tenu de ses compétences, il a été envoyé en mission en Chine pour aider un jésuite qui était un paléontologue. Ce séjour a été extrêmement productif puisqu'il a contribué à, sinon découvrir, du moins à authentifier le synanthrope. Donc c'est un séjour, il a pris contact là avec toute la communauté scientifique qui vivait à Pékin et il a réellement fait un grand pas en avant dans ses connaissances.
Donc c'est là qu'il s'est passionné pour la géologie, l'histoire de la Terre.
Exactement. Vous savez d'ailleurs que Teilhard, bon c'est venu peut-être un petit peu plus tard, mais a été le premier géologue qui a dressé des cartes, et le premier qui a dressé une carte géologique complète de la Chine. Je fais une parenthèse, on n'est pas dans sa vie, mais c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, Teilhard, en tant que scientifique, est pratiquement plus connu en Chine qu'en France. C'est assez paradoxal puisqu'il est, au fond, tous les paléontologues ont comme ancêtre commun, si on peut dire, Pierre Teilhard de Chardin. Donc il est très connu et très, très réputé en Chine.
Et alors, à côté de ces recherches scientifiques, plutôt géologiques, qu'est-ce qu'il a enseigné ou qu'est-ce qu'il a développé comme pensée sur le plan plus théologique et philosophique ?
Là, on rentre complètement dans le développement de sa pensée. Au fond, toute cette pensée est venue de sa découverte, s'appuie sur sa vision de l'évolution. Cette vision de l'évolution, si vous voulez, elle est issue de Darwin pour une part, de Bergson, et surtout de son expérience scientifique, enfin de sa découverte, si vous voulez, de l'évolution à travers les fossiles qu'il a ramassés de ci, de là, et depuis sa plus tendre enfance. Et au fond, toute sa pensée a été d'essayer de rapprocher cette vision scientifique, pour lequel il n'avait aucun doute, et la pensée religieuse. Ce qui lui a valu d'avoir très vite des problèmes assez sérieux avec son ordre, et plus exactement avec l'Église. On ne sait pas trop comment, mais enfin vers les années 1920, excusez-moi, à quelques années près, je ne suis peut-être pas très précis, il a écrit un papier sur le paradis terrestre, remettant en cause complètement cette notion de paradis terrestre. C'est un document qu'il avait fait, je crois, un peu sur le coin d'une table et qu'il avait envoyé à un de ses amis, jésuite. Et on ne sait pas comment, ça n'est toujours pas expliqué, mais comment ce document est arrivé à Rome. Et ça a été le début, en fait, de ses ennuis. Je fais une précision, d'ailleurs, je n'avance pas dans la chronologie, si vous me permettez, je fais une précision là-dessus. Teilhard n'a jamais été mis à l'index. Il y a simplement eu un monitum, c'est-à-dire au fond un avertissement de prudence, qui a été édicté par le Vatican, mais après la mort de Teilhard, quand le père de Lubac a produit un ouvrage de défense et de présentation de l'œuvre de Teilhard.
Oui, donc au fond, il a cherché à réconcilier la science et la foi, c'est un peu son objectif.
Exactement, il a essayé de réconcilier ces deux convictions, parce que je crois que c'était un grand chrétien, malgré tout.
Enfin, il était... Pas malgré tout, c'était un grand chrétien.
Oui, encore qu'il a peut-être eu quelques petits problèmes.
Enfin, je dis oui, malgré avec tout, l'institution.
Surtout, avec l'institution, oui. C'était un grand chrétien, et c'était également un grand scientifique. Vous savez d'ailleurs que ses œuvres scientifiques représentent deux fois plus d'espace d'écriture que ses œuvres théologiques. Elles sont encore aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle, c'est assez considérable. Donc c'est un grand scientifique, et pour lui, il fallait absolument rapprocher cette vision de l'évolution de la conception religieuse qu'il avait. Et tout est parti de là. Et en fait, l'origine, c'est assez intéressant, l'origine profonde de sa pensée, c'est venue dans les tranchées de la guerre 14.
Il était mobilisé
pendant la guerre 14, non pas soldat puisque les jésuites n'étaient pas étaient un petit peu en marge. Il était mobilisé comme brancardier, où il a eu d'ailleurs une conduite absolument remarquable. Il a eu la Légion d'honneur, la Croix de guerre, pardon, à titre de brancardier, ce qui était tout à fait exceptionnel. Et en fait, il a affûté toutes ses pensées qui germaient déjà depuis pas mal de temps dans les tranchées. Dans les tranchées, au son du canon. Et si vous voulez, cette vision des masses qui se jetaient les unes contre les autres, quelque part l'a marqué. Et je crois que beaucoup d'idées sont venues à ce moment-là.
Alors, j'imagine que...
se sont affinées, puisque Teilhard est l'homme d'une idée. Toute sa vie, il n'a fait qu'affiner. Enfin, il n'a fait que... Il a affiné cette pensée.
Alors, quelle pensée? Quelle idée il a affiné?
Cette idée de convergence entre l'évolution et la religion.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait? J'irais qu'il s'appuyait donc sur la science. Donc, il admettait la théorie de l'évolution darwinienne.
Tout à fait.
Et donc, il fallait pour lui, je dirais, tenir un autre discours théologique. Ce qui devait bouger, c'était pas la science, c'était la religion. Donc il fallait dire autrement, je dirais, certaines vérités du catéchisme sur l'évolution de l'homme et de la vie.
Pas tout à fait. Je pense que ce qui lui a paru beaucoup plus fondamental, c'était d'essayer de découvrir un sens dans l'évolution et de voir dans quelle mesure, en comprenant ce mécanisme, le terme est un peu faible, mais en comprenant ce mécanisme de l'évolution, il pouvait éclairer la religion et la pensée de la religion, et non pas la contredire, mais l'éclairer, lui donner un autre éclairage. Je crois que c'est ça ce qu'il a fait, beaucoup plus que de critiquer le catéchisme, etc. Il ne s'en est pas privé par moment.
Oui, parce que vous l'avez dit sur le paradis terrestre, on pourrait dire qu'il était à l'opposé des créationnistes aujourd'hui. C'est-à-dire, il a dû à une époque où on croyait encore que le monde avait été créé il y a 6000 ans et que Adam et Ève avaient vécu sur Terre, etc. Je pense qu'il a fait partie de ces premiers savants, et même théologiens chrétiens, qui ont remis en cause tout ce discours fondamentaliste qui prenait la Bible à la lettre.
Tout à fait. Non, ça, tout à fait. Il y a aucun doute. Au fond, ce qu'il a découvert, ce qu'il a marqué, c'est de voir un petit peu cette continuité qu'il y avait entre le Big Bang, qui la notion sortait à la fin de sa vie, entre le Big Bang et aujourd'hui. Et au fond, de constater que tout au long de l'existence de l'univers, depuis 14 milliards d'années et quelques poussières, tout au long de son existence, l'univers a évolué dans un sens bien précis. Ce sens est marqué par une montée de complexité. Et je crois que cette idée de croissance de la complexité dans l'univers, c'est réellement l'idée fondamentale qu'a apporté Teilhard.
Idée qui est reprise aujourd'hui par tous les scientifiques. On a reçu récemment dans cette émission Trinh Antuan, astrophysicien américain, qui nous a expliqué qu'il était émerveillé par cette croissance de la complexité qui montre que tout part des étoiles pour arriver au cerveau humain. Donc il y a cet extraordinaire mouvement de l'évolution. Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est que finalement Teilhard Chardin est un des premiers à insister, à montrer cette croissance de la complexité et de dire qu'il y avait un sens à l'évolution.
C'est tout à fait. Il était, sinon le premier, l'un des tout premiers. Je pense que déjà Bergson avait un petit peu touché
avec l'évolution créatrice.
Mais lui est allé beaucoup plus loin. C'est réellement lui qui a bâti cette notion, qui a érigé cette notion de complexité en système, pratiquement. Alors, il est parti lui-même était un paléontologue, donc il est parti du vivant, ça c'est une de ses grandes idées aussi, il est parti du vivant, où l'évolution se voyait assez bien, n'est-ce pas, à travers les différents phylums, et il s'est dit, mais au fond, ce raisonnement ne s'applique-t-il pas depuis le Big Bang? Et en fait, il s'applique parfaitement. Si vous prenez un atome, mon Dieu, mais c'est pas quelque chose de tout à fait évident. Et comment l'atome est-il sorti de la soupe originelle, en quelques minutes d'ailleurs, ça n'est rien de moins évident. Pourquoi ces électrons tournent autour? Pourquoi il y a des quarks? Pourquoi il y a ces noyaux, etc. Ça n'est absolument pas évident. Donc c'est déjà quelque chose de frappant. Puis cette évolution est passée petit à petit aux molécules. Eh ben, n'est-ce pas ? On est passé des atomes aux molécules, des molécules aux cellules vivantes, et c'est là où Teilhard avait commencé, au fond. Et il a réussi à dire que, au fond, il a extrapolé sa vision de paléontologue à l'ensemble de l'univers.
Voilà.
Et là, on rejoint
Trinh Antuan et beaucoup d'autres scientifiques qui insistent là-dessus. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas simplement cherché à écrire une histoire de l'univers et de la vie, c'est qu'il veut montrer qu'il y a une sorte de finalité à l'œuvre dans la nature.
Ah, mais c'est bien là toute sa découverte, c'est qu'il y a une finalité. Il y a une finalité, si vous voulez. Bon, alors, c'est un scientifique, donc pour lui, il est toujours très prudent là-dessus. Parler de finalité...
Oui, c'est un langage philosophique.
C'est un langage philosophique. Et là, Teilhard se trouve incontestablement à la charnière entre les deux. Surtout quand il vient extrapoler en disant il y a un point oméga qui attire la création vers lui. Alors là, on n'est pas du tout dans le domaine scientifique. Donc lui, le théière scientifique, le théière avec la casquette scientifique, avec sa gabardine, son petit marteau qui va taper dans les rochers, lui, il consiste à dire, s'arrête en disant, manifestement, il y a une évolution qui va dans un sens donné. Point. C'est l'autre théière qui extrapole et qui essaye de faire le théologien, qui essaye de faire le lien.
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel en compagnie de Jacques Mazurel. Nous parlons de la pensée de Teilhard de Chardin. Lélie Anvar, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous laisse reprendre un petit peu le fil de la conversation où nous l'avons laissé, c'est-à-dire sur cette idée d'une évolution.
Oui, absolument. En réalité, ce qui me touche énormément dans la pensée de Teilhard de Chardin, je dirais, c'est sa sincérité. C'est-à-dire, c'est un homme qui a une foi extrêmement profonde, qui ne doute jamais, mais qui néanmoins ne rejette pas d'un revers de la main les vérités scientifiques auxquelles qu'il a vu lui-même, qu'il a pratiqué, et il essaye vraiment de se dire, eh bien, puisque ma foi elle est profonde et réelle et que je n'ai pas de doute, puisque la science est certaine, alors quel va être le pont que je vais jeter entre ces deux certitudes en réalité? Et c'est curieux parce que ce sont des certitudes ouvertes chez lui. C'est-à-dire la certitude n'est jamais une certitude fermée, mais toujours une certitude ouverte et en évolution, en accord avec donc sa pensée. Et effectivement, cette idée donc qu'il y a peut-être une puissance souveraine, une puissance maîtresse qui dirige l'évolution, pour lui, est peut-être la manière de régler ce problème que la religion a avec la théorie de l'évolution et de concilier les deux. C'est d'autant plus étonnant de ce fait que l'Église ait quand même empêché la publication de ses ouvrages de son vivant, et que l'Église l'ait envoyé à l'autre bout de la terre pour l'empêcher de trop développer ses idées, je dirais, en public. C'est d'autant plus étonnant que, justement, ce sont ce genre de personnages qui permettent précisément à la religion de ne pas être l'ennemi de la science.
Crédible.
Et voilà, et de rester totalement crédible dans la modernité, de s'assumer complètement dans la modernité.
On était encore dans la lutte de l'Église contre les idées modernes, hein, issues de Pie IX. C'est effectivement ça a duré jusqu'à Vatican II quasiment, cette posture-là.
Voilà. Et d'ailleurs, vous expliquez qu'il a sa pensée a profondément influencé Vatican II, absolument. Donc voilà, c'est un petit texte là que je vais vous lire, qui est extrait donc de Science et Christ, justement. Et dans lequel il explique justement cette idée qu'il a de l'évolution comme étant dirigée par une finalité. Il ne dit jamais Dieu, mais on entend bien quand même qu'il y a une puissance intelligente qui fait se mouvoir la matière vers quelque chose de plus en plus complexe. Il existe, se propageant à contre-courant à travers l'entropie, une dérive cosmique de la matière vers des états d'arrangement de plus en plus sans trop compliquer, ceci en direction d'un troisième infini, infini de complexité, aussi réel que l'infini et l'immense. Laissée assez longtemps à elle-même, sous le jeu universel et prolongé des chances, La matière manifeste la propriété de s'arranger en groupements de plus en plus complexes et en même temps de plus en plus sous-tendus de conscience. La vie ne se diversifie pas au hasard, en tous sens, mais laisse voir une direction absolue de marche vers des valeurs de conscience croissante. Sur cet axe principal, l'homme est le terme le plus avancé que nous connaissions. Si l'univers a réussi jusqu'ici l'invraisemblable travail de faire naître la pensée humaine au sein de ce qui nous paraît un réseau inimaginable de hasard et de mauvaise chance, c'est qu'il est au fond de lui-même, dirigé par une puissance souverainement maîtresse des éléments qui le composent.
Magnifique.
Donc Jacques Mazurel, là, effectivement, on est au cœur maintenant de sa pensée, c'est-à-dire il pense qu'il y a une intelligence qui est à l'œuvre, dans une intention, on pourrait dire, qui est à l'œuvre dans tout le processus d'évolution, qui doit conduire jusqu'à l'homme.
Tout à fait. Je pense que pour Teilhard a tenté d'expliquer un petit peu ça, d'aller un petit peu plus loin, tout en restant dans le domaine de la philosophie. Pour lui, l'explication, on en a parlé tout à l'heure, c'est au fond la conséquence, c'est une montée de complexité. Cette complexité, d'où vient-elle ? Elle vient de l'assemblage d'éléments qui ont été faits à, je dirais, l'échelon de complexité inférieur. Autrement dit, je m'explique, il y a des atomes, les atomes se sont assemblés entre eux, ont créé des molécules, et ainsi de suite, les molécules s'assemblent et font des produits de plus en plus complexes. Donc il y a incontestablement, et c'est très bien dit dans la citation que vous avez énoncée, il y a incontestablement une tendance intrinsèque à la matière à s'assembler. Alors, comment cela se passe-t-il ? Pour Teilhard, enfin l'explication qu'il a donnée, et vous allez voir, elle devient de plus en plus crédible, parce qu'à son époque, elle était réellement un peu éthérée, un peu osée, c'est cette notion d'esprit-matière. Autrement dit, il vient dire, il n'y a pas une dualité absolue entre la matière d'une part et l'esprit d'autre part, la matière en quelque sorte sous-tend une certaine dose d'esprit. Alors ça paraît effectivement, surtout à son époque, un petit peu olé-olé, si on peut dire. En fait, ça l'est de moins en moins aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui deux choses, si vous voulez, qui permettent de se dire que tout compte fait, il peut y avoir quelque chose à creuser là derrière. D'une part, il y a toutes les théories dites de l'information. On se rend compte de plus en plus que information, matière et énergie sont les trois éléments qui sont au fond au cœur réellement de la matière. Et cette notion d'information est quelque chose que l'on découvre de plus en plus. La notion aujourd'hui, bon, vous avez un ordinateur sur la table, la notion de logiciel est quelque chose qui aujourd'hui est très facilement admis, mais qui à son époque était beaucoup plus flou. On ne connaissait guère que les cartons de jacquard des métiers à tisser. Hein. On en est beaucoup plus loin. Donc il y a cette notion d'information qui rend cette idée crédible. L'autre point, c'est tout ce qui tourne autour des théories quantiques. Franchement, aujourd'hui, onde ou corpuscule, on ne sait plus tellement ce qu'est la matière. Ça n'est pas du tout quelque chose de concret, on ne sait pas très bien ce qu'est la matière. Donc, cette conception de Teilhard d'esprit-matière est quelque chose qui devient, je dirais, de plus en plus recevable, sans que pour autant on est encore tiré la quintessence de ce raisonnement, mais ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus recevable. Nous avons à plusieurs reprises parlé de complexité. La complexité n'est pas, n'est-ce pas, une accumulation comme un rocher ou quelque chose comme ça. La complexité, il faut la voir beaucoup plus, par exemple, dans le cerveau, qui est le cerveau humain, qui est considéré aujourd'hui comme le maximum de complexité disponible sur la Terre et probablement dans l'univers. La complexité, c'est quoi ? Ce sont effectivement des milliards de cellules, mais qui sont assemblées elles-mêmes par des millions de connexions, ce qui fait quelque chose d'absolument considérable. Et l'esprit, alors c'est assez curieux au fond de la part d'un religieux, c'est qu'au fond, il y a presque une origine un peu mécaniciste de l'esprit, quelque part. Quelque part, la matière secrète de l'esprit, ce qui n'est pas très catholique, si on peut dire. Mais c'est un peu la conception de Teilhard.
Oui, pour lui, il n'y a pas besoin d'intervention spéciale de Dieu dans l'évolution. L'évolution, dès le départ, finalement, peut produire par les mécanismes naturels, les lois naturelles, peut produire l'être humain dans sa complexité actuelle.
C'est ça, tout à fait ce qu'on dit. Ce qu'il dit, quelque part, il y a d'autres citations, peut-être les avez-vous, madame, il y a d'autres citations dans lesquelles il dit « Dieu fait en sorte que les choses se fassent ». Mais ne les fait pas lui-même.
Tout à fait. Hein, c'est là
c'est
qu'il
la
est en
subsidiarité.
C'est là qu'il est en, je dirais, il faut bien le distinguer des promoteurs du dessin intelligent aujourd'hui aux États-Unis, qui ont tendance à dire au fond, Dieu dès le départ prévoyait que viendrait l'homme, mais il a eu besoin d'intervenir à des moments décisifs, comme l'apparition de l'homme par rapport aux autres vivants, pour créer un esprit spirituel. Oui. Donc pour lui, voilà, si esprit et matière sont liés, il y a tout simplement, je dirais, l'esprit humain est le fruit d'un processus qui dure des milliards d'années.
C'est ça. Mais rien n'empêche, alors là on retrouve la notion de hasard, rien n'empêche de penser, mais encore une fois on est dans l'extrapolation, rien n'empêche de penser que derrière le hasard, Dieu ne pipe pas de temps en temps un peu l'aider. Mais ça, nous ne le saurons jamais.
Mais ça, il le dit ou pas?
Il y a des citations où il n'est pas très loin de ça. Moi, je suis peut-être un petit peu gros grain et un peu trop concret, là. Mais il le laisse supposer. C'est derrière la notion de providence, quelque part, que vous retrouvez par là, à travers le hasard.
Alors, il y a cette notion donc, dont on vient d'évoquer, du lien très étroit, consubstantiel entre l'esprit et la matière. Il y a aussi une idée chez lui qui est importante, c'est l'idée de l'homme comme co-créateur. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, c'est attaché un petit peu à la notion de liberté et la notion de co-créateur, c'est-à-dire que, au fond, la création a suscité un être qui, aujourd'hui, est relativement libre. Que nous sommes. Du coup, jusqu'à maintenant, même chez les animaux, la création était en quelque sorte dirigée automatiquement, il n'y avait pas d'espace de liberté. Est arrivé maintenant un être qui lui-même est libre et raisonne, c'est la pensée réfléchie, lui-même raisonne, et lui-même ne peut ne pas suivre, si vous voulez, ce que l'univers et la nature conduit. Il peut justement, et c'est sa grandeur, il peut...
Pour le meilleur et pour le pire.
Pour le meilleur et pour le pire, on en reparlera si vous voulez, mais pour le meilleur et pour le pire, il peut s'échapper aux lois de la nature. Donc, il devient en quelque sorte, l'expression est très belle, il devient en quelque sorte co-créateur. Autrement dit, dans la conception de Teilhard, la création s'est attachée à un auxiliaire qui est l'homme.
Alors, j'ai envie de vous dire, dans quel but? Et là, c'est le théologien qui doit parler pour répondre à cette question, c'est le chrétien. Dans quel but Dieu aurait voulu qu'arrive un homme doué de liberté qui puisse être co-créateur? Pour aller vers quoi? Pour faire quoi?
Bah, c'est là où on rejoint la théologie.
C'est la théologie.
Pour le rejoindre lui.
Pour
rejoindre
Dieu.
Comment voulez-vous qu'un être qui n'est pas d'intelligence, qui n'est pas de conscience, qui n'est pas de liberté, puisse rejoindre le créateur qui, par définition, est libre? Donc ça rentre assez bien dans cette logique, c'est-à-dire que tant que la création n'a fait que des cailloux et des pierres, on ne voit pas très bien l'intérêt. Le but de la création, c'est nous. Nous sommes pas le but ultime, mais nous sommes certainement une étape tout à fait fondamentale, puisque, comme vous le signalez, au fond, la création s'est attachée à un co-créateur qui peut faire des bêtises.
Oui, mais justement, c'est tout le problème, comme vous dites, parce que je pense que Teilhard de Chardin doit avoir une réflexion sur le mal aussi.
Oui, le problème du mal est, à mon avis, inséparable du problème de la liberté. Donc on a bien vu que la création doit par nécessité donner la liberté à l'homme, n'est-ce pas? Alors, pourquoi Dieu, c'est tout le problème du mal? Pourquoi Dieu, je dirais, par définition, parfait, tout-puissant et bon, a-t-il permis au mal de s'insérer dans le monde? Alors, c'est un problème sur lequel, très honnêtement, il n'y a pas de réponse. Il y a des acrobaties, je vais vous en donner quelques-unes, mais franchement, c'est assez limité. Le premier, c'est Dieu ne peut pas créer du parfait, parce qu'alors il se referait. Donc, ça n'est pas une possibilité.
Donc il y a une distance entre lui et la créature pour ne pas être une reproduction à l'identique.
Puisqu'il est infini, et s'il se refait exactement, il ne fait rien. Bon, avouez que c'est un peu réducteur. Dieu a volontairement limité sa responsabilité, autre hypothèse pour la liberté. Il a volontairement limité sa responsabilité pour nous laisser la liberté. En quelque sorte, c'est un Dieu en S.A.R.L. Avouez quand même que c'est effrayant. Autre hypothèse, le christianisme insiste sur la faute originelle, une sanction posthume. Nous sommes des anges déçus, et nous payons les fautes commises jadis par nos ancêtres. Bon, ce n'est pas très gai, ça l'est d'autant moins qu'on ne sait pas exactement qui a fauté. Adam, et pourquoi pas Ève ? On n'en sait rien. Pourquoi ? Donc ça n'est pas non plus une explication satisfaisante. Teilhard, lui, sans qu'il dise que ce soit une explication, mais je trouve que ça cadre mieux, propose de considérer que l'univers n'est pas achevé, c'est ce que nous avons vu, qu'il est en genèse, qu'il est en enfantement. Le mal serait donc un sous-produit de l'inachèvement de l'évolution. Nous allons vers la perfection quand le monde aura réellement atteint les objectifs que s'est fixé le Créateur, mais en attendant, disons qu'il n'est pas forcément très confortable, n'est-ce pas ? Teilhard admet que cette explication qui ressort de certains textes n'est pas très satisfaisante et que le problème du mal reste, et c'est le problème de la création aussi, reste finalement le mystère fondamental. On peut broder autour, mais c'est un mystère.
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel, en compagnie aujourd'hui de Jacques Mazurel pour parler de la pensée de Teilhard de Chardin. Sur ces belles notes de la Traviata, nous poursuivons notre discussion avec vous, Lélie Anvar.
Oui, je vous ai écouté parler, je me suis dit, finalement j'aurais dû apporter un texte de Descartes. Si Teilhard de Chardin était plutôt mécaniciste, il était plutôt du côté de Descartes, qui d'ailleurs était aussi un jésuite. Mais en réalité, en vous lisant, en préparant cette émission, j'ai plutôt pensé à Pascal, alors vous me direz si j'ai eu tort ou raison. En tout cas, c'est vrai que la primauté de la raison, de la pensée, comme le signe même de cet organisme complexe qu'est l'humain, est très important dans le système, disons, de Teilhard de Chardin. Et il met en avant, bien sûr, la pensée et la raison comme étant les marques distinctives de l'humain. Et ça ne pouvait pas manquer de me faire penser à ce célébrissime texte de Pascal, connu sous le titre du Roseau pensant. Et donc, je vais vous lire le texte et peut-être on va engager un dialogue là-dessus, puisque c'est une suite de pensées. Et j'ai choisi d'ajouter donc aussi une dernière pensée qui suit en fait les passages sur le roseau pensant, dans lequel précisément Pascal nous parle du fait que l'homme est à la fois ange et bête. C'est-à-dire à la fois à cette capacité de penser l'infini et en même temps de se conduire mal. Et ça revient à ce que nous disions sur la question de la liberté et du mal. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature. Mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ceux qui le tuent, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers, lui, n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever, et non de l'espace et de la durée que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale. Ce n'est point de l'espace que je dois chercher ma dignité, mais du règlement de ma pensée. Je n'aurai pas d'avantage en possédant des terres. Par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit comme un point. Par la pensée, je le comprends. Nous avons une si grande idée de l'âme de l'homme que nous ne pouvons souffrir d'en être méprisés et de n'être pas dans l'estime d'une âme. Et toute la félicité des hommes consiste dans cette estime. La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est donc être misérable que de se connaître misérable, mais c'est être grand que de connaître qu'on l'est. Il est dangereux de trop faire voir à l'homme combien il est égal aux bêtes sans lui montrer sa grandeur. Il est encore dangereux de lui faire voir sa grandeur sans sa bassesse. Il est encore plus dangereux de lui laisser ignorer l'un et l'autre. Mais il est très avantageux de lui représenter l'un et l'autre. Il ne faut pas que l'homme croie qu'il est égal aux bêtes ni aux anges, ni qu'il ignore l'un et l'autre, mais qu'il sache l'un et l'autre.
Quel texte admirable. Je pense que la pensée de Teilhard et celle de Pascal se rejoignent tout à fait. La différence viendrait simplement du niveau de connaissances acquises entre Pascal et Teilhard, ce qui permet à Teilhard de dire « l'homme n'est petit que si l'on choisit certaines dimensions ». C'est-à-dire que si on choisit effectivement les dimensions géométriques, si on choisit même le temps, l'homme effectivement est tout petit, et c'est un roseau, et encore bien moins qu'un roseau. Par contre, si on considère que la dimension fondamentale de la création, c'est la complexité et c'est la pensée, et là on rejoint tout à fait Pascal, à ce moment-là, Teilhard a admirablement montré que l'homme était le plus grand, puisqu'on est pour Teilhard, l'aboutissement le plus achevé, au fond, l'aboutissement de la création. Rappelons, et sous cet angle-là, nous ne sommes pas petits du tout. Et Teilhard a remarquablement réhabilité et replacé l'homme au centre du jeu.
Oui, et rappelons que Pascal lui-même était scientifique et qu'il était pris dans cette même difficulté de faire se rejoindre son expérience scientifique et son expérience de la foi. La différence quand même fondamentale, il me semble, c'est que Pascal, au bout du compte, est tragique, c'est-à-dire que à un moment donné, il pense qu'il faut abandonner la raison, alors que Teilhard de Chardin est fondamentalement optimiste et qu'il croit absolument que la raison et la foi peuvent marcher d'un même pas.
Absolument. Teilhard était bien éloigné des jansénistes sous cet angle-là.
Alors justement, je voulais qu'on parle de l'optimisme de Teilhard de Chardin. Puisque c'est un penseur optimiste, il est confiant dans l'avenir. Explique-nous pourquoi.
Il est confiant, je pense, pour deux raisons. D'abord, je crois essentiellement parce qu'il croit en l'homme. Il croit que l'homme a un potentiel tout à fait considérable. Et ce potentiel, ce n'est pas l'homme en tant qu'individu, c'est l'étape suivante, c'est l'homme en tant que société. Il croit que l'avenir de l'homme, c'est la société et non pas l'évolution biologique de l'individu. Peut-être serons-nous encore plus beaux, madame, peut-être, mais l'homme lui-même ne va que très peu évoluer. Et l'étape suivante pour Teilhard de l'évolution, c'est la société. Au fond, quand il dit ça, il ne fait que reprendre ce qu'il a constaté depuis le début. C'est-à-dire que nous sommes en fait les briques de l'étape suivante.
Et l'étape suivante, est-ce que l'évolution de la société ne passe pas par l'évolution de conscience des individus ? Est-ce que ce n'est pas parce que les individus seront plus éclairés, plus intelligents, plus conscients que les sociétés vont évoluer ?
Je crois que le potentiel quand même de la société, dans la mesure où ce potentiel est bien coordonné, et tout le problème est là, dans la mesure où tout ce potentiel est coordonné, dans la mesure où les gens travaillent ensemble, dans la mesure où ils arrivent à établir entre eux des relations qui sont non pas d'ordre de coercition, c'est pour ça que Teilhard ne croit absolument pas à un gouvernement mondial, mais qui sont de l'ordre de, prenons-le au sens très large, qui sont de l'ordre de l'amour, de l'amitié, de la
camaraderie. Mais ça, ce sont des sentiments individuels.
Non, je pense que si vous voulez, quand vous faites coopérer différentes personnes entre elles, il va sortir beaucoup plus que ce que chaque personne
bien
ne
sûr.
Vaut.
Bien sûr, mais si chaque, bien entendu, c'est dans le lien social que se manifestent ces qualités, mais il faut que chaque individu veuille les développer.
Alors, c'est tout le problème. Vous mettez le doigt sur effectivement ce qui est un des grands soucis de Teilhard. Là aussi, il y a des phrases magnifiques. C'est que l'homme doit être optimiste. L'homme doit croire au progrès. Enfin, au sens très large, l'homme doit croire à l'avenir, l'homme doit croire dans sa finalité, dans le sens de son existence. Effectivement, si, et on le voit aujourd'hui malheureusement, si les hommes ne croient plus à rien, effectivement, ils vont, il y a de belles citations, ils vont se mettre en grève. Ils vont se mettre en grève, ils ne vont pas vouloir continuer, parce que le chemin qui est tracé par l'évolution est un chemin qui est rocailleux. Ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille que l'évolution. Donc il y a des étapes très difficiles à passer, et ces étapes, il faudra bien les passer, et on ne les passera que dans la mesure où il y a un regain d'optimisme dans la création, où les gens savent où ils vont. Je crois que ça, c'est le grand message de Teilhard.
Alors, on a connu cette idéologie du progrès qui était très très forte au XVIIIe et XIXe siècle, mais de manière assez matérialiste, assez positiviste. C'était l'idée que l'homme, par les seules forces de sa raison, allait progressivement créer un paradis terrestre, allait créer le bonheur sur Terre, on aurait des sociétés parfaites, etc. Puis on a eu le XXe siècle, avec deux guerres mondiales atroces, avec Hiroshima, avec Auschwitz. Donc le XXe siècle a montré les limites, si vous voulez, de cette idéologie. D'ailleurs, a fortement fait reculer cette foi dans le progrès des sociétés humaines qu'avaient les hommes du 19e siècle. Qu'est-ce qui permet à Teilhard, en tant que, pas simplement, je dirais, que philosophe positiviste, mais en tant que sans doute homme de foi, en tant que chrétien, de croire que l'homme va toujours aller vers un mieux? Qu'est-ce qui, pour lui, lui permet de justifier, d'argumenter cette conviction?
Alors, je pense qu'il y a d'abord un accroissement des connaissances. Et il y a une autre raison qui est d'ordre plus théorique aussi et plus philosophique, qui consiste à penser que si la création, si l'univers, si le système d'évolution qui préside à l'évolution de la création depuis le Big Bang a toujours continué exactement dans le même sens, cette montée de complexité, cette montée de l'esprit, si depuis 14 milliards d'années ça n'a pas dérivé, autant qu'on puisse le voir, pourquoi voulez-vous penser que subitement ça dériverait ? C'est relativement peu crédible. Alors, ça veut dire probablement que le Créateur a dû mettre quelque part, tout en nous laissant de la liberté, quelques garde-fous. Alors, ces garde-fous sont probablement assez larges. Il est très probable d'ailleurs que quand on va se heurter sur l'un de ces garde-fous, on va se faire très mal. Mais je pense que l'un dans l'autre, les choses vont continuer à avancer. Je ne vois pas pourquoi elles s'arrêteraient.
Et alors, quel est l'état de société réalisée à laquelle il croit? C'est une société, c'est un monde totalement fraternel. Enfin, comment caractériser ce monde auquel il aspire et auquel il croit, qui serait l'aboutissement de ce processus de complexité?
On peut déjà répondre par la négative, si vous voulez, en disant que ce ne serait pas ce monde. Et là, Teilhard, on sent très bien l'influence des deux guerres mondiales, et là, surtout la première qu'il a vécue de très près. Pour lui, si vous voulez, un monde coercitif, autrement dit, faire marcher tout le monde dans la même direction par la force, est quelque chose de tout à fait impossible. Et il donne une explication qui est presque d'ordre biologique là-dessus. Il vient dire, au fond, quel a été le moteur de la montée de complexité, c'est bien la diversité. C'est par l'assemblage de briques extrêmement diverses que l'on crée un autre élément. Dans la mesure où la société marche au pas cadencé, on va immédiatement, ou dans la mesure tout simplement où il y aurait un gouvernement mondial dont certains rêvent aujourd'hui et qui me paraît être une utopie complète, dans la mesure donc où les gens marchent tous ensemble et qu'il n'y a plus d'espace de liberté, la créativité va disparaître. Donc l'évolution va disparaître. Donc c'est absolument contre nature. Ce qui veut dire, par contre, ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser les gens partir n'importe comment. Ce qui veut dire donc qu'il faut qu'entre les humains s'établissent petit à petit, ça sera un long chemin, il y a une part d'utopie, surtout de nos jours, mais je pense que c'est fondamental, il faut que s'établissent entre les humains des forces d'un autre ordre, qui sont des forces, à nouveau, ce qu'on disait, des forces de l'ordre d'amour, de la confiance, de l'amitié, etc. Il faut que ces forces-là prennent le pas sur les forces de coercition, sur les forces relativement matérialistes. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faille abandonner le matérialisme, hein, qu'il fasse s'adonner au Robespierre de la bougie ou à des gens comme ça. Non, ça veut dire simplement qu'il faut petit à petit apprendre davantage à être tous ensemble.
Et comment est-ce qu'il inscrit sa foi chrétienne à l'intérieur de tout ça? Qui est le Christ pour lui et qu'est-ce qu'il est venu apporter sur Terre pour participer à ce processus d'évolution?
Alors j'ai presque envie de vous renvoyer à votre livre là.
Comment Jésus est devenu Dieu?
Comment Jésus est devenu Dieu? Parce que vous avez, je pense là remarquablement, je vous fais de la publicité, vous avez
gentil.
Là remarquablement soulevé le problème de qui était Jésus. C'est devenu avec Constantin un dogme. Il y a un espace là... C'est très difficile de répondre sans choquer. Je pense que Teilhard a une vision du Christ qui est quand même assez, disons, extrêmement ouverte. Pour lui, le Christ, il parle du Dieu cosmique, du Christ cosmique. C'est quand même une toute autre dimension que, je recite Teilhard, que le Christ des bénitiers dont il parle quelquefois. Donc, qui est le Christ? Bon, c'est le Fils de Dieu, officiellement.
Mais qu'est-ce que le Christ cosmique, le fait qu'il y ait cette venue dans le monde, qu'est-ce que ça apporte à l'évolution? Est-ce que ça éclaire les consciences? Est-ce qu'il vient donner une semence qui va permettre à l'humanité de progresser vers les valeurs les plus fondamentales, une meilleure maîtrise de usage de sa liberté?
Incontestablement, la parole du Christ a fait évoluer les choses. Je crois qu'on ne peut absolument pas le nier. Mais il y a pour Teilhard, entre le Christ et Oméga, une similitude... Tout à fait.
Oméga, expliquez ce que c'est.
Oméga, c'est le point vers lequel se dirige l'évolution. Autrement dit, cet oméga, il le nomme oméga, mais oméga, c'est le Christ, c'est Dieu, en trois personnes, puisque c'est comme ça qu'il faut l'assimiler. Mais autrement dit, l'évolution, c'est l'attracteur de l'évolution, quelque part. Et c'est le point vers lequel se dirige l'évolution.
Alors, il y a une idée, on va terminer par là, qui est très intéressante et je trouve extrêmement actuelle chez Teilhard Chardin, c'est l'idée de noosphère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit?
Alors, la noosphère, c'est un terme qu'a utilisé Teilhard. La noosphère, c'est précisément l'aboutissement, il faut bien le prendre comme ça parce que quelquefois il y a des contresens là-dessus, c'est l'aboutissement de l'évolution, la noosphère. C'est à partir du moment où il y aura réellement une sphère parfaitement unifiée d'êtres d'humains qui eux-mêmes s'apprécieront penseront à Oméga, si vous voulez, quand il y aura une espèce d'unanimité qui se sera faite dans la création. C'est l'aboutissement, en quelque sorte, de l'évolution, c'est la noosphère. Ça n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui.
Oui, c'est-à-dire que ça vient du mot nous, qui oui. est l'esprit, l'intelligence.
Exactement.
Et ça sphère... veut dire qu'il y a une sphère de l'intelligence collective. Ça rejoint un peu l'idée d'inconscient collectif de Jung, sauf que ça le connote de manière positive à travers cette idée que la pensée va vers toujours plus de progrès.
C'est ça. D'ailleurs, la noosphère, telle que Teilhard l'utilise, telle que Teilhard utilise le terme, c'est un aboutissement. Ce n'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui. C'est un aboutissement. Et souvent, il y a confusion parce que le terme est assez joli. Mais c'est un aboutissement, la noosphère, telle que l'emploie Teilhard.
Nous terminons cette émission des Racines du Ciel consacrée à Teilhard Chardin par un très bref agenda culturel. Je rappelle votre ouvrage Jacques Mazurel, coécrit André dans un Teilhard de Chardin visionnaire du monde nouveau avec une préface de Yves Coppens. Je signale aujourd'hui également le bulletin que vous publiez de l'association qui s'appelle Teilhard de Chardin. Teilhard aujourd'hui de l'association, je veux dire Pierre Teilhard de Chardin. C'est un bulletin trimestriel, une association très vivante. Hein, vous me disiez qu'il y a plus de 1500 personnes qui régulièrement se réunissent pour continuer de discuter, de faire connaître les œuvres de Teilhard de Chardin. Donc on mettra sur notre site internet les coordonnées de l'association pour tous ceux que ça intéresse. Et puis vous êtes également très investi la cause écologique puisque vous êtes également rédacteur en chef président d'une revue qui s'appelle Sauvons le Climat. Une association qui s'appelle Sauvons le Climat qui publie une revue que j'ai là entre les mains. Je signale également notre partenaire Le Monde des Religions qui sort son numéro de novembre-décembre consacré aux prophéties de la fin du monde, donc avec une analyse du fameux code Maya pour savoir si le 21 décembre 2012 peut être effectivement une date prophétique décisive et si le monde continuera après, mais enfin d'après Teilhard Chardin il continuera bien longtemps, donc on peut être rassuré. Et puis également expliquer ce que les différentes religions, les monothéistes, les religions orientales disent de la fin du monde. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup Jacques Mazurel.
Merci.
Je rappelle que vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine et la réécouter pendant un mois sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, je recevrai Amina Taha Hussein Okada pour parler du Ramayana. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Très bon dimanche à tous.